C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de course qui s'appelle Ready Set Bet, un jeu de paris. Alors, en fin d'émission, on retrouvera Copla pour on y rejoue ou on n'y rejoue pas. Et puis pour commencer, eh bien, c'est Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes avec Dans le Rétro. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, on va revenir sur un jeu de John Dittler, qui est aussi l'auteur de Ready Set Bet que je vais présenter aujourd'hui, qui était aussi l'auteur de Empire's End,
ouais,
que j'ai présenté mardi. C'est, j'ai envie de dire, c'est son mois, John Dittler.
Ouais, ça a l'air d'être l'auteur du moment. Ouais. Après, c'est vrai que c'est très chouette ce qu'il nous propose, John Dittler. Moi, je voulais revenir sur un jeu donc un peu plus ancien, un jeu qui date de 2016. Il s'agit de Mystic Veil. Donc il avait fait forte impression à l'époque. Alors ouais. Ça c'était la sortie, je pense en anglais, il a dû sortir il y a quelques années en France.
Oui.
Alors Mystic Veil, on est sur ce qu'on appelle un deck building, un jeu de construction de paquets de cartes. Donc l'idée de ce genre de jeu, c'est qu'on a chacun sa propre pioche, on va piocher des cartes dans son paquet pour pouvoir faire des choses. Et l'idée c'est, en général, d'acquérir de nouvelles cartes qui vont améliorer notre paquet, et comme ça, il y a un sentiment de progression, de développer son jeu et de devenir de plus en plus fort. Alors, la première particularité de Mystic Veil, c'est qu'en général, dans ces jeux-là, c'est souvent le système de pioche du premier jeu du genre Dominion, c'est à ton tour, tu pioches 5 cartes, et puis c'est avec ça que tu vas jouer. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça va être un petit système de prise de risque. À son tour, on va piocher des cartes. T'en pioches. Il y a des symboles pas cool dessus. Il y a des petits symboles rouges. Si t'en as 4, t'as raté ton tour. Tu joues pas, ça passe au joueur suivant. Donc là, c'est vraiment du stop ou encore. Il faut savoir se dire, là, peut-être j'arrête un peu les bêtises. En général, quand on a 3 symboles rouges, on s'arrête. Mais des fois, il nous manque la petite ressource. On se dit, allez, vas-y, ça se tente. Je vais aller la chercher. Donc ça, déjà, c'était assez original. Système assez novateur qui fait d'une manche à l'autre, tu vas pas avoir le même nombre de cartes, tu vas avoir le sentiment des fois de faire des très très gros coups, puis au contraire, par moment à main, je vais faire un tour un peu faiblard. Ce système a même été repris dans un jeu qui a eu un grand succès, Living Forest, dernièrement, tellement c'est efficace. Et après, la grosse originalité du jeu, là où ça fait très bizarre quand on lance sa partie, c'est qu'on pioche ses cartes, et les cartes, il y a quasiment rien dessus. Voilà, il y a 2-3 petits symboles qui se baladent. Donc voilà, les symboles rouges qui nous disent attention, arrête de piocher. Et puis des symboles qui représentent les petits sous du jeu. C'est avec ça qu'on va acquérir des choses. Et puis il y a même carrément des cartes vides, des cartes où il y a rien dessus. Tu te dis mais pourquoi j'ai des cartes vides? Ça sert à rien dans mon paquet d'avoir des cartes blanches comme ça. Ils auraient pu les virer. Et c'est là l'astuce du jeu, c'est qu'on ne va pas dans ce deck building acheter de nouvelles cartes pour améliorer notre paquet. Il n'y a pas du tout de cartes à acheter. À la place, il va y avoir des transparents avec des choses inscrites dessus. Et ces transparents va les glisser dans nos cartes. Donc il y a des protections de cartes qui sont déjà fournies dans la boîte. Donc toutes nos cartes sont protégées par des pochettes transparentes et on va pouvoir venir y insérer à l'intérieur de nouveaux éléments, des effets de jeu, des ressources. Donc ça, c'est très sympathique déjà au niveau du matériel. C'est rigolo de glisser tous ces petits transparents et de fabriquer comme si on dessinait dessus ses propres cartes. Et ça va donner une sensation de développement aussi très très forte.
Ouais.
On reste avec nos 20 cartes de départ et ta carte qui est toute nulle, et à la fin, elle a 3-4 effets dessus qui vont être combinés. Et du coup, ça donne une sensation assez explosive à chaque partie de mon deck où il n'y avait rien dessiné dessus. Et à la fin, ça part dans tous les sens et je vais pouvoir faire des gros coups. En plus de ça, donc c'est des cartes qui nous permettent de générer de l'argent, de générer des points de victoire. On va avoir un jeu un peu à l'ancienne, moi j'aime bien, c'est une course aux points. Il y a très peu de points de victoire pour toute la partie et quand les joueurs ont tout raflé, c'est fini, il fallait se dépêcher. Et quelques ressources qui permettent d'acheter des cartes très joliment illustrées, elles par contre, qui sont pas du tout vides. Ce sont des cartes qui ne vont pas aller dans votre paquet, qui vont rester devant vous, vont principalement vous faire des points de victoire en fin de partie, et même accessoirement quelques effets bonus permanents qui permettent aussi pas mal de typer votre jeu d'une partie à l'autre. Donc Mystic Veil, pour le coup, moi je trouve ça très très fun à jouer d'un point de vue mécanique aussi, par le côté un peu objet rigolo à manipuler.
Et puis en plus, là les sleeves sont inclus dans la boîte.
Ouais, pour le coup, vous avez pas le choix. Faut obligé de jouer avec les protections de cartes. Sinon, les transparents, ils tombent. Donc ça marche pas.
Ça marche pas bien. Et alors, il y a aussi. Alors, je sais plus si c'est sur celui-là, mais si je crois que c'est sur celui-là, il faut enlever la petite pellicule sur tous les transparents.
Oui, ouais, carrément, il y a une petite pellicule de protection sur tous les transparents.
C'est un peu long, ça. C'est un peu long, ça.
Ouais, c'est un petit peu fastidieux. Avant la première partie, il faut protéger ses cartes.
C'est ça, ouais, il y a tout à...
Alors, c'est dit dans la règle, t'es pas obligé de le faire. Hein. Ça protège quand même tes transparents. Et au bout d'un moment, ils vont un peu se barrer. Il faut les enlever.
Ouais, très bien.
Donc, excellent jeu. Et du coup, en regardant un petit peu ce qu'il avait fait, alors ça, malheureusement, ça ne se fait plus. Il avait fait aussi en 2018 Space Base.
Mais oui, Rachel en a parlé. Excellent. Rachel en a parlé mardi de Space Base.
Chouette. Ouais. C'est un très, très bon jeu. Hein. C'est un mini-ville plus avec plein d'effets dans tous les sens, beaucoup plus de contrôle sur votre jeu. Avec, moi, je trouve un visuel assez sympathique, dessin animé de science-fiction des années 80, un peu, qui est assez rigolo. Donc non, vraiment un auteur.
Mais il avait
des trucs assez chouettes.
Mais il n'avait pas eu malheureusement. Il a pas marché en France, j'ai l'impression. Hein, ce que disait Rachel, on l'a pas vu beaucoup dans les boutiques. Il y a même des extensions qui sont sorties, mais qui sortiront peut-être jamais en France du coup.
Hein. Bah non, le jeu ne se fait plus en France, donc je ne pense pas que les extensions sortiront un jour, malheureusement.
Ouais, c'est plus compliqué.
Des fois, c'est la vie de. Il y a des bons jeux qui ne se vendent pas.
Il y a tellement de jeux qui sortent. Y en a qui vont faire un reprint, d'autres qui en feront un deuxième, et d'autres qui ne feront pas, et d'autres qui feront 100 000 ventes. Quoi.
C'est ça
la vie du jeu de société.
Y a une vraie différence entre une œuvre qualitative et un produit qui se vend. C'est pas la même chose. Des fois, ça se combine, et puis des fois, non. C'est pas parce qu'un jeu ne se vend pas qu'il ne peut pas être excellent.
Ah bah non, entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup Jonathan, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est Ludique.
Merci Mathieu, à plus.
Salut. Allez, d'ici quelques instants, je vais revenir donc sur un jeu de John Dittler qui vient tout juste de sortir. Un jeu où il va falloir pas être assis, non. Non, c'est un jeu où vous êtes debout autour de la table, vous allez parier, ça s'appelle Ready, Set, Bet.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Le pari sportif a été démocratisé il y a quelques années avec Internet et les paris en ligne, mais je me souviens quand mon père faisait son tiercé dans le bar PMU du coin, prenait sa feuille et cochait les numéros et qu'ensuite tout le monde regardait l'écran pour voir quels étaient les trois chevaux qui allaient passer en premier la ligne d'arrivée. Bien sûr, tout le monde espérait avoir le tiercé dans l'ordre pour remporter la mise, mais déjà, tu étais content si tu avais les trois placés. Une chose est sûre, cette ambiance de course manque et c'est cette ambiance que je vous propose de retrouver autour de votre table aujourd'hui avec Ready Set Bet, un jeu de John Dittler que nous propose Yellow en France pour cette fin d'année. Un vrai jeu de paris, pas de manipulation de chevaux, hein, on va vraiment parier. Alors au niveau matériel, on a un grand plateau avec des cases de mise hein, pour placer vos jetons. Mais attention, un seul jeton par case, il faudra prendre des risques si vous voulez être le premier à le poser. Tous les joueurs connaissent les cotes au début et les meilleurs paris l'emportent. Le joueur à avoir gagné le plus d'argent sur les 4 courses est le grand gagnant. Dans Ready Set Bet, la course se fait en temps réel. Oui, au début du jeu, tous les joueurs, hein, sachant que l'on peut jouer jusqu'à 8, hein, disposent d'un nombre égal de jetons de paris numérotés 2, 3, 3, 4 et 5. Et vous les récupérez tous à la fin de chaque course. Alors sur le plateau, il y a des emplacements. Où placer vos jetons afin de parier sur un cheval gagnant placé ? Premier, deuxième ou troisième. Il existe des paris pour faire gagner une couleur spécifique de chevaux. Il existe également des paris accessoires aléatoires distribués à chaque course qui vous permettent de parier sur un cheval faisant mieux qu'un autre cheval ou groupe de chevaux selon les couleurs. Il existe des cartes d'arrivée particulières qui vous permettent aussi de parier sur des situations spécifiques de fin de course. Le problème pour parier, c'est que chaque espace ne peut contenir qu'un seul jeton. Si quelqu'un d'autre place son jeton, là, eh bien vous souhaitez placer le vôtre, eh bien c'est dommage, c'est pas grave, hein, ça sera la prochaine fois, il faudra le mettre ailleurs. Il y a 3 espaces pour que chaque cheval gagne et 2 pour chaque cheval à placer. Mais les chances de chaque espace ne sont pas toujours les mêmes. Attendre pour parier n'est pas toujours une mauvaise idée, car dans Ready Set Bet, vous pouvez regarder la course, voir comment ça démarre, mais un cheval peut partir vite et ralentir par la suite. Et vous, ne soyez pas trop lent à parier, car vous pourriez le regretter. Ok, alors je regarde la course, mais comment ça se passe ? C'est simple, vous allez voir, la mécanique est top. L'un des joueurs ne va pas parier, c'est le speaker de la course, et va lancer 2 dés, et enchaîner comme ça les lancers. Et à chaque fois, il avancera les chevaux sur le plateau hippodrome, sachant qu'il existe aussi une appli, et franchement, je ne peux que vous la conseiller. 9 chevaux participent à chaque course, les pions chevaux commencent alignés sur le plateau de l'hippodrome, qui est une grille de 9 rangées. La ligne d'arrivée est à 15 places, chaque cheval a un numéro correspondant à son couloir. Les chevaux vont de 4 à 10 et vous avez aussi un cheval de 3 et 11-12, hein, sachant hein, que c'est des combinaisons plus compliquées à faire avec 2 dés. Je fais un 2 et un 3, bah, j'avance le cheval numéro 5. Le cheval 7 a donc plus de chances de sortir. Hein, 4 et 3, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. On a 5 et 2, ça fait 7. Bref, il va sortir plus souvent. Alors du coup, tous les autres chevaux ont la possibilité de gagner des coups bonus. Si le même numéro est obtenu 2 fois de suite, cela déclenche un mouvement supplémentaire. Pour les numéros 6 ou 8, et bien ils se déplacent d'une case supplémentaire de plus 1. Les chevaux 5 et 9 se déplacent de plus 2 cases supplémentaires. Les chevaux 4 et 10 se déplacent de plus 3 cases supplémentaires. 2, 3 et 11, 12 déplacent également plus 3 espaces supplémentaires. Alors si vous faites 2 fois le 4, et bien votre cheval va se déplacer d'une case, puis une case et enfin le bonus de 3. En 2 coups, il aura donc avancé de 5 cases et ça c'est plutôt pas mal. Alors attention, on ne peut pas attendre non plus que les chevaux atteignent la ligne d'arrivée, ce serait trop facile pour parier. Et bien du coup, il y aurait même peut-être trop de chaos autour de la table. Alors dès que l'un des chevaux dépasse la ligne rouge sur le plateau hippodrome, c'est la fin des paris. En revanche, la course elle continue jusqu'à ce que 3 chevaux atteignent la ligne d'arrivée. Plus les paris sur un cheval sont faibles, et plus la cote de ce cheval est élevée, et plus les gains seront élevés aussi. Inversement, les chevaux les plus joués sont ceux qui ont les plus petites cotes et rapportent donc le moins. Au niveau paris, comment je calcule ? Bah, c'est assez simple. Si je mets un jeton de valeur 5 sur la case cheval 10 gagnant où il y a noté x6, eh bien vous gagnez 30 d'argent car 5 x 6, ça fait 30. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi des cartes VIP pour pimenter encore plus la course. Alors, Ready Set Bet, c'est bien, oui, c'est même très bien. Clairement, le jeu d'ambiance que vous allez sortir à l'apéro, hein, personne ne sera assis d'ailleurs. Hein. Tout le monde sera debout autour de la table. Il y aura le plateau, chacun a ses jetons et c'est parti, la course commence et ça se passe devant vous sur l'écran. Et franchement, c'est encore mieux. On s'y croit dans le bar PMU de mon enfance. Voilà. Ça s'appelle Ready Set Bet et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ces jeux d'ambiance un petit peu frénétiques.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Alors est-ce qu'on y rejoue, est-ce qu'on y rejoue pas? C'est Copla qu'on retrouve dans C'est ludique. Salut Copla.
Bonjour.
Pourquoi pas on pourrait faire l'émission le soir, effectivement. Tu sais, moi aussi, je suis un peu décalé. Hein, donc,
Je serais peut-être plus réveillé à ce moment-là, en tout cas, c'est sûr.
Alors, l'année dernière, je présentais quel jeu ?
Alors, l'année passée, ma semaine 46, tu nous parlais de Vivarium,
ouais.
de l'extension de Colt Express, La Bête, Luna Capital et La Planche des Pirates.
Mmh.
Alors, dans cette liste, moi, j'ai choisi de vous parler de Vivarium.
D'accord.
Vivarium, c'est un jeu de Frédéric Vuania, illustré par Satoshi Matsuura et édité par Studio H. Alors, je vais pas faire comme d'habitude, à savoir vous parler d'abord de la mécanique du jeu en premier,
ouais.
Même si j'y reviendrai évidemment, rassurez-vous. Mais je vais tout d'abord m'intéresser à son illustrateur.
Mmh.
Et oui, c'est ça aussi le jeu de société, hein. C'est un art visuel et il est parfois bon de le souligner.
Effectivement.
Alors, Satoshi Matsuura, c'est un illustrateur japonais qui est spécialisé dans le character design. Alors, le character design, c'est la conception d'un personnage et de son style graphique. Alors, si vous voulez comprendre un petit peu plus, prenez par exemple Homer Simpson et Monsieur Propre. Alors, même si techniquement, ce sont deux darons sans cheveux, ils n'ont quand même pas grand-chose à voir graphiquement.
Non, c'est sûr.
Voilà. un autre exemple, je ne sais pas, prenez Dora l'exploratrice et Lara Croft. Voilà,
oui.
Elles ont un but commun, mais bon, voilà, on voit bien que graphiquement, c'est quand même bien différent.
Personnellement, je préfère Lara Croft, mais bon, après...
On est plutôt d'accord là-dessus. Hein. Donc Satoshi Matsuura, il a clairement un style graphique bien à lui, qui est assez reconnaissable. Et c'est à lui qu'on doit, par exemple, le jeu Hidden Leaders, ou plus récemment encore Almost Innocent.
Oui, ah oui, exact.
Et voilà, oui. Et donc c'est lui qui est à l'origine des créatures de Vivarium. Alors ces créatures, justement, on en dénombre pas moins de 75. Donc 75 créatures uniques, c'est ouais. Beaucoup. Et si vous baladez rapidement sur le compte Instagram de Satoshi, hein, vous vous rendrez compte que bah, le mec, il carbure. Hein. Voilà.
Il en fait des créatures.
Oui, absolument. Donc bref, ces 75 créatures, elles sont, avec un second élément du jeu que je vais évoquer un peu plus tard, une des caractéristiques propres de Vivarium. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elles nous plongent au cœur d'un univers imaginaire assez captivant. Voilà, on va sortir le temps d'une partie de notre petite réalité. On s'évade dans un nouveau monde qui a quelque chose d'assez agréable et je dirais même stimulant. Hein. On vient titiller notre curiosité, perturber nos certitudes, parce que ces créatures, elles ont vraiment des formes, des couleurs, voilà, des choses assez étranges. Donc tout ça vient nous perturber un petit peu. On sait très bien que voilà, le monstre du Loch Ness, le Yeti, Bigfoot, toutes ces créatures cryptides, oui, alors ce terme existe vraiment, hein, il ne s'agit pas que d'un jeu, même si justement on y parle aussi de créatures légendaires. Bref, ces bestioles, elles ont toujours eu, depuis la nuit des temps, quelque chose d'assez fascinant. Et en ça, bim, Vivarium tape vraiment en plein dans le mille. Alors, le second point qui fait la singularité de Vivarium, c'est sa mécanique de sélection astucieuse par combinaison de dominos. Donc c'est ce système, il transforme en fait les chiffres de vos dominos en coordonnées géographiques, coordonnées qui vont correspondre à l'emplacement des fameuses cartes créatures que vous cherchez à collectionner, hein, puisqu'il s'agit d'un jeu de collection. Alors l'utilisation de ces dominos, justement, il offre aussi quelque chose d'intéressant, notamment des dilemmes, puisque vous commencez votre tour avec deux dominos, mais vous avez l'obligation d'en défausser un avant de réaliser sa combinaison. Vous cherchez évidemment à récupérer les cartes convoitées. Mais alors, déjà, il faut que vos dominos vous donnent la bonne combinaison.
Mais oui.
Mais surtout, vous ne devez pas oublier que ce nouveau domino, il servira au prochain joueur ou la prochaine joueuse après vous. Donc, vous devez toujours faire attention à ne pas laisser trop belles opportunités aux personnes qui jouent après vous.
Oui, il faut faire attention, hein, justement. Ouais,
tout à fait, voilà. Donc, d'où le côté de dilemme. Bref, il y a vraiment une petite tension permanente, hein, tout au long de la partie. Vous jonglez entre la collection, les bonus et les objectifs, selon les cartes que vous récupérez. Niveau matériel, c'est impeccable, hein, c'est clairement un atout du jeu. Les dominos, ils procurent un véritable plaisir de manipulation qui accroît le plaisir ludique. Les temps de partie qui durent environ 30 minutes, qui peuvent d'ailleurs baisser hein, après quelques parties, sont plus que raisonnables. Il y a 4 façons de scorer, ce qui permet d'avoir plusieurs axes, d'adapter votre stratégie. La simplicité des règles qu'on peut également évoquer, hein, qui n'enlève en rien la profondeur de la réflexion, sans pour autant que ça devienne trop cérébral. Bref, Vivarium est quand même un petit jeu familial plutôt bien calibré.
Mais forcément, je m'attendais. Là, vu tous les compliments, je me dis c'est bon. C'est bon, là, aujourd'hui, comme là, elle y rejoue. Mais il y a le mais qui arrive.
Voilà, j'aime souvent y venir, en effet. Mais, alors, pour revenir à son premier atout, qui était donc, je le rappelle, son univers graphique. Eh bien, les créatures imaginaires, tout ça, il y a un autre jeu qui avait déjà joué cette carte-là. Un autre qui, avant lui, avait inventé toute une panoplie de magnifiques créatures avec un parti pris graphique très fort qui a d'ailleurs énormément attiré le public à sa sortie. Ne serait-ce que par sa couverture. Alors Matt, est-ce que tu as une petite idée si je te dis par exemple que c'est une boîte noire et blanche avec des traits presque crayonnés, il y a très peu de couleurs dans ce jeu. Est-ce que ça te parle ?
Noire et blanche ?
Ouais.
Et il date de quand le jeu ?
Il date d'il y a 2 ans, je dirais.
Ah ouais,
d'être à peu près ça.
Lueur.
Exactement, bravo, c'est Lueur.
C'est pas concerté avant, on est d'accord.
Ah, pas du tout, non, c'était un petit jeu dans le jeu, tu vois, on est on improvise. Et pour revenir du coup au second point de cette histoire de sélection de domino par les coordonnées géographiques par sélection, il y a également un autre jeu qui avait déjà joué cette carte-là. Alors Matt, est-ce que tu as une idée si je te dis un jeu dans lequel tu incarnes un promeneur qui découvre les secrets de la nature, observe la faune et la flore locale.
Ah ouais.
Et sur la couverture, Parts. Il y a une jolie loutre.
Parts.
Et non, perdu. Il y a pas de loutre.
Il y a pas de loutre. Ouais, non, il y a pas de loutre. C'est pour ça que je l'avais. Puis quand t'as dit loutre, je fais non, c'est bon, t'es foutu.
Eh oui, non.
Une jolie loutre.
Ouais. La couverture est un peu bleue sur les bords.
Ouais.
Il y a une très grosse loutre.
Il y a une très grosse loutre.
Ouais.
Ouais.
Il s'agit du jeu Mido.
Ah, mais oui, mais
et oui.
Et oui,
Mido a aussi cette façon de sélectionner ses cartes, une grille de cartes par coordonnées. Alors, pour terminer, du coup, à la question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas?
Eh bien, oui.
Eh bien, j'ai très envie de te répondre oui pour toutes les bonnes raisons que j'ai citées dans cette chronique.
Alléluia.
Et, attends, c'est pas fini. Je sais que c'est un jeu qui, du coup, est resté en rayon quand même bien plus longtemps que d'autres.
Ouais.
Malheureusement, comme Star Wars restera la référence en science-fiction, Harry Potter pour la magie... Eh ben, pour la collection de créatures, on va pas se mentir, hein, c'est quand même difficile de faire mieux que Pokémon.
Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah là, oui, si tu vas chercher Pokémon aussi.
Voilà, donc techniquement, je pense quand même que le jeu peut ressortir assez ponctuellement de son étagère.
Avec une version Pokémon.
Eh ben pourquoi pas ?
Ah bah voilà, c'est ça.
On va proposer à Studio H.
Ça va coûter plus cher la licence, à mon avis.
De réfléchir à la question. Oui, bah bien sûr, c'est l'éternel problème. Hein. Le coût des licences, en principe, est un véritable frein pour la création de jeux de société, évidemment.
Donc, Vivarium, on y rejoue.
Allez, on va dire qu'on y rejoue. On y rejoue, on le ressort pour s'évader. Voilà, le temps de s'évader dans un univers avec ses jolies créatures et son joli parti pris graphique.
Merci beaucoup, Copla, de nous avoir parlé de ce jeu. Et puis, à très bientôt.
À très bientôt, à la semaine prochaine.
Oui, salut.